Sinon, nous avons des examens, bien sûr, aussi, tout le long de l'année à l'école, où on leur fait un mélange d'anatomie, physiologie, de connaissances pures et puis de cas concrets. Donc, on essaye de les adapter tout doucement à répondre à un cas concret. C'est très difficile pour eux. La plupart du temps, ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'enseignement, je dirais, théorique qu'on leur a appris, ce qu'on appelle chez nous la démarche de soins, et le cas concret, ce qui fait qu'ils arrivent à nous mettre des niaiseries, par exemple, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et j'ai un exemple de cette semaine qui était sidérant quand même. Je leur ai demandé de me faire un cas de chirurgie, de préparation à la chirurgie. Et c'était un monsieur de 63 ans qui rentrait pour une prostate. Et je leur ai demandé quel rôle aide-soignant ils avaient dans l'après-midi qui précédait l'opération. Et donc, moi, ce que j'attendais, c'était la préparation alimentaire, le rasage, la toilette, etc. Et beaucoup m'ont mis, il a fallu que je le relise pour arriver à croire ce que je voyais. On lui enlève son vernis à ongles, ses bijoux et on lui met une chemise de nuit. Alors que c'était un homme de 63 ans qui rentrait pour une prostate. Parce que on leur avait appris dans le cours qu'il fallait enlever les bijoux, qu'il fallait enlever le vernis à ongles et qu'il fallait donner une chemise propre. Donc là, je me suis dit que notre méthode pédagogique ne devait pas être très bonne parce que, ils avaient simplement oublié que c'était un homme et ils n'avaient pas fait attention aux données en fait, du problème. Donc je leur redis toujours, dans un examen, relisez la donnée au moins 3-4 fois. Cibler le sujet avant de répondre une niaiserie parce que ça m'a fait bien rire, mais enfin, comment est-ce que je pouvais coter ça en positif quoi sur l'évaluation hein. Voilà des choses comme ça qui sont un petit peu amusantes. Il faut savoir que dans la population d'aides-soignants, d'élèves aides-soignants que nous avons, bon, c'est pas forcément la même population que les infirmières. Il faut pas oublier que c'est une formation qui se fait en un an seulement, donc ils sont opérationnels en un an. Ils vont donc entrer dans la profession très vite. Il y a deux catégories de population qui sont complètement opposées. La première catégorie, c'est les tout jeunes qui sortent du BEP sanitaire et social, qui sont donc très scolaires dans leur approche, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la vie, mais qui sont pleins de volonté par contre et pleins d'énergie. Et je dirais qu'à l'opposé, on a une autre population qui est ceux de gens plus mûrs, qui ont travaillé par exemple comme ASH, donc comme agent hospitalier par exemple, hein, ou en maison de retraite comme veilleuse, ou simplement qui ont fait une autre carrière, n'importe quoi, peut-être quelquefois éducateur, des choses comme ça, et qui ont envie de changer, qui ont une expérience de la vie, qui sont mariés, qui ont parfois une famille, et qui raccrochent à la profession à l'âge par exemple de 30 ou 40 ans, voire plus. Et donc, c'est très difficile d'arriver à avoir une population homogène. Et ils ont tous les deux des très gros problèmes. Donc, ceux-là ont parfois des problèmes familiaux ou d'argent. Les très jeunes ont plutôt des problèmes de maturité et d'apprentissage. Et donc, nous, les enseignants, nous jonglons entre les deux, en fait. Il faut donc s'adapter à ces populations. Par contre, il y a probablement un effet bénéfique, c'est qu'ils s'entraident entre eux. Les plus mûrs aidant les moins mûrs, les jeunes qui ont plus de facilité d'apprentissage aidant peut-être ceux qui sont intellectuellement plus rouillés. Il se passe des interactions comme ça qui sont sympas. Et on s'est aperçu par exemple quand il y en avait des malades qui manquaient, qu'on n'avait rien besoin de dire. Immédiatement, ils se mettaient en place un réseau de photocopiage, de passage de cours, de téléphonie. Qui faisait qu'il y avait un réseau de soutien avant même qu'on ait besoin de leur demander.
Et un cours avec toi, ça se déroule comment en fait?
Alors, un cours avec moi, alors ça dépend vraiment quel est le cours. J'aime pas trop faire les gros cours de pathologie, tout ça, parce que je trouve qu'on est un peu serré dans le temps. Donc, en fait, on fait quand même de la pédagogie pure, là, c'est-à-dire qu'on va leur donner un enseignement, hein, un savoir, autrement dit, entre guillemets, qu'on est obligé de leur inculquer. J'essaye quand même de les faire participer, c'est-à-dire que quand j'emploie des mots savants, j'essaye de leur demander s'ils comprennent bien ce que je veux dire, ou qu'est-ce que ça éveille en eux. Est-ce qu'ils ont déjà entendu ce mot? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils ont connu des gens qui avaient ça, par exemple? C'est déjà un peu plus vivant. J'essaye de faire au tableau des schémas pour que ce soit clair. Parce qu'il me semble que quelqu'un qui apprend par cœur bêtement des choses, surtout des mots médicaux un petit peu qui leur passent au-dessus de la tête, ne va pas retenir, alors que quand ils ont compris le sens de leur action, ils vont beaucoup mieux retenir. Par exemple, je peux leur apprendre tout sur une opération, mais s'ils n'ont pas compris pourquoi, de quoi la personne souffrait dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qui l'a amené à se dire « Ouh là là, il faut que je me fasse opérer », eh bien, ils vont pas retenir la pathologie, tout simplement. Alors, ça fait quand même des cours, du coup, assez longs et assez denses, parce qu'il faut à la fois l'explication, l'inculcation du savoir, je dirais, pur et dur, et puis faire un retour pour voir si quand même ça a été bien compris, quoi. Voilà, donc c'est... Mais j'aime pas trop. Les cours que je préfère, c'est peut-être ceux où on leur donne, par exemple, un texte assez choc, un texte, par exemple, écrit par une personne âgée, des choses comme ça qui frappent un peu, et puis on leur demande de regarder ce texte et de dire ce que ça leur éveille par rapport à ce qu'ils ont vu dans les services de gériatrie, par rapport à ce qu'ils ont connu comme vieille dame, par exemple, chez eux, qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qui leur plaît beaucoup dans ce texte. Et ça, il me semble que c'est une réflexion intéressante. Alors bien sûr, il faut reprendre après en synthèse, sinon ça fusionne un peu de partout. Ça, on peut arriver à dériver même du sujet, mais c'est toujours très riche par contre. Et il me semble que, bon, après en faisant une synthèse, on arrive toujours à trouver quelque chose de très intéressant. C'est un peu l'idéal, je trouve, pour moi. Malheureusement, à cause de la gestion du temps, on ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Quelque chose d'autre qu'on leur fait faire, c'est des travaux de santé publique. On leur donne un thème de santé publique et là, on leur laisse la carte libre. Donc, ils vont aller dans diverses organisations, établissements, bibliothèques, et ils vont rechercher eux-mêmes l'info qu'ils vont ensuite nous transmettre sous forme d'un exposé et même parfois de façon très concrète. Ça peut aller jusqu'à un repas, par exemple. Et alors ça, c'est très intéressant et il me semble qu'ils apprennent aussi bien comme ça. Mais ça demande environ le double de temps. Si on compte le temps pour qu'ils aillent là-bas, le temps où ils se mettent en groupe après pour travailler sur ce qu'ils ont fait et glaner, et le temps de synthèse, ça demande beaucoup de temps. Voilà.
Il y a des cours où tu as une spécialité?
Ah oui, tout à fait. On essaye quand même de se partager la tâche de façon cohérente avec ma collègue. C'est-à-dire qu'on prend quand même de préférence les modules où nous avons une expertise clinique. Par exemple, moi, je suis une infirmière spécialisée dans la douleur et les soins palliatifs. Il est bien évident que tout ce qui est douleur et soins palliatifs, ça m'est revenu d'emblée et ça serait vraiment une hérésie de fonctionner autrement. Ma collègue qui est plutôt santé publique, etc., elle a pris tous les modules, bien sûr, de santé publique. Et puis le reste, c'est un petit peu par rapport à notre expérience antérieure. Et puis malheureusement, il reste des modules, je dirais, bâtards, qu'on se partage ben, à regret parce qu'ils ne nous intéressent pas trop ni l'une ni l'autre. On se partage équitablement et puis on réacquiert l'information qu'on n'a pas, hein, c'est clair. Hein. Ce qu'on fait quand même l'une et l'autre de temps en temps quand on se sent vraiment trop nul dans un domaine et ça arrive. Par exemple, moi je suis pas très bonne en réanimation. On retourne à l'hôpital quelques heures, voir le nouveau matériel, se faire expliquer quand même telle ou telle chose parce que sinon on a l'impression que l'information passera pas, quoi, quoi. On va leur dire quelque chose de collé. Ça passera pas. Il y aura pas d'authenticité derrière et à la limite, on risque même de pas pouvoir répondre aux questions, ce qui est quand même gênant. Donc voilà, on fait ça. Mais il faut savoir que toutes les infirmières enseignantes ne font pas cette démarche. Il y en a qui ne retourneront pas à l'hôpital parce que c'est embêtant. Il faut demander, il faut se mettre en situation humble de dire, eh ben voilà, je ne sais plus faire ça, j'ai oublié ça. Et qu'il y en a qui n'accepteront pas de le faire parce qu'elles se sentent remises en question, alors que moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que chacun a ses limites et chacun a ses compétences. Et voilà. En gros, c'est ça. Mais ça pose problème. Hein. La répartition du travail pose problème. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste. Il y a l'enseignement, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a la coordination. Il faut fabriquer le programme. Il faut quand même élaborer le programme. Ça, c'est une énorme tâche. Il faut le répartir dans le temps. Il faut contacter les intervenants extérieurs parce que nous avons quand même des intervenants extérieurs que nous faisons venir pour des sujets justement un petit peu pointus et parce que c'est intéressant aussi pour les élèves d'avoir un autre regard dessus. Il y a tout ça, il y a l'alternance stage-école à planifier, il y a la gestion des absences, il y a la gestion des examens pratiques dont je parlais tout à l'heure. Dans le temps, donc 30 élèves, il faut planifier. Il y a 4 examens pratiques dans l'année, 3 formatifs et un réel. Donc il faut faire tout ça. Il y a la gestion des évaluations et des révisions. Et puis surtout, le plus casse-tête de tout, c'est les stages. La répartition des stages, de façon à ce que chaque élève couvre, au courant de ses 12 mois qu'elle a, les spécialités qui sont indispensables pour le diplôme, de façon harmonieuse. Et ça, c'est un casse-tête épouvantable qu'on est obligé de vérifier sur ordinateur grâce à notre secrétaire comptable. C'est une très grosse partie et relativement ingrate de notre travail, mais c'est absolument essentiel. Et puis, il y a la préparation psychologique au diplôme aussi qui rentre un peu dedans. Les pièges à éviter, les choses comme ça, les modalités pratiques aussi, tout simplement. Par exemple, il y a des papiers d'identité à avoir sur soi. Je veux dire, c'est vraiment idiot de ne pas pouvoir se présenter. Donc, on leur explique tout ça, les modalités d'intervention. Voilà.
Vas-y.
Voilà. En ce qui concerne le matériel. Bon, nous ne sommes pas forcément très gâtés, enfin nous avons une école très confortable en locaux, etc. Nous avons une photocopieuse, heureusement aussi, ce qui nous permet quand même de donner une partie en polycope. Cela dit, nous sommes comme partout maintenant un petit peu restreints du point de vue budgétaire, donc on ne donne pas tout en polycope. D'autant que il y a quand même un réflexe des élèves parfois, quand on a trouvé que quand on leur donnait tout en polycope, quelquefois ils n'écoutaient plus le cours. Donc c'est un peu embêtant. Donc il y a quand même une bonne partie qui est dictée où ils prennent bon, la prise de notes classique. Par contre, la photocopieuse est très utile pour nous pour faire des schémas, des restructurations de schémas, des agrandissements, des choses qui sont jolies, qui sont un petit peu pratiques, qui les aident à retenir. Quelquefois je fais des montages, par exemple une prise en charge de malade, j'essaye de tout mettre sur une feuille ou deux. Tous les éléments d'une journée, par exemple, en faisant des petits découpages ou des petits dessins. Donc ça peut être intéressant. Donc on a une partie effectivement un petit peu technique comme ça. On fonctionne aussi avec des transparents. Pour les sujets, entre autres, un peu compliqués, c'est vrai que c'est un support intéressant. On peut expliquer sur le schéma au fur et à mesure un système, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus facile avec un transparent, qu'on peut d'ailleurs éventuellement leur laisser en photocopie après, hein. On peut très bien faire ça. On leur montre aussi en pratique alors certaines choses, des choses tout à fait concrètes. On a quand même un matériel de base à l'école, dans notre salle de pratique, même s'il est totalement insuffisant parce que c'est des choses qui coûtent cher et que les hôpitaux ne nous donnent pas forcément. En général, on en hérite quand c'est périmé ou quand c'est abîmé. Donc ça limite quand même beaucoup. On leur montre évidemment tout ce qui est pansement, par exemple. Les inhalations, les sondes, les choses comme ça. On a quand même un petit matériel à l'école et on leur fait une démonstration pratique, sachant que c'est quand même jamais aussi bien qu'en milieu réel. C'est quand même pas évident, mais ça leur donne une petite idée quand même de ce qui les attend. Ça leur permet de poser des questions, surtout sur des petits points techniques qui les tracassent. Voilà, mais on n'est en aucun cas assez riche et c'est vrai que une des opportunités qu'on a. Quand on fait ces examens pratiques un peu dans tous les hôpitaux, c'est justement de glaner un peu du matériel. Quelquefois, les surveillantes sont très gentilles, elles ont un peu des choses en trop, donc qui servent plus, et on essaye un peu de s'enrichir comme ça, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un métier qui est lié à la pratique, et que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir leur montrer en vrai, ou du moins en presque vrai, ce qui les attend dans les services. Elle se sentirait moins gauche aussi quand on a pratiqué même sur du faux, je dirais entre guillemets, c'est quand même mieux que d'avoir rien fait du tout. Et elle se sent un peu mieux armée. Enfin, je dis elle, mais en fait, je devrais dire il parce que maintenant, il y a quand même pas mal d'hommes qui rejoignent la profession. Voilà, en ce qui concerne le matériel, on n'est pas très riche quand même. Si je veux dire, c'est classique, hein. On n'a même pas d'ordinateur à disposition des élèves, pas encore. ça va peut-être venir, hein, parce que de plus en plus de services hospitaliers sont informatisés. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'elles aient une sensibilisation à l'informatique. Pour l'instant, on l'a pas. On l'a en théorie, hein, il me semble qu'ils ont 1 heure de sensibilisation, mais c'est pas beaucoup, hein. Voilà.